Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est l'histoire d'une personne qui... C'est l'histoire d'une personne qui veut acheter donc une armoire. Donc elle se rend chez Conforama et donc demande au vendeur, voilà, je veux une armoire. Donc le vendeur lui montre le modèle. Donc ils se mettent d'accord. Donc c'est un modèle qu'il faut monter, donc il est livré en kit. Donc pas de problème, elle prend son armoire et rentre chez elle. Donc elle monte son armoire, donc tout se passe bien. Mais à ce moment-là, donc dans sa rue passe un bus et l'armoire explose. Donc elle comprend pas, elle dit qu'est-ce qui se passe. Donc elle remonte encore une fois son armoire et donc un autre bus passe et paf, ça explose. Ah, oh, dit le vendeur, il m'a eu là quand même. Donc je vais retourner le voir. Donc elle retourne chez Conforama. Donc et dit au vendeur, voilà. Donc elle explique le problème. Le vendeur dit, écoutez, je comprends pas. C'est la première fois que ça nous arrive. Ce que je vais faire, c'est qu'après mon travail, je vais passer vous voir. Donc comme de fait, donc le vendeur après 19h passe voir donc la personne. Donc, il constate que quand le bus passe, l'armoire explose. Il dit, écoutez, attendez, je vais vous la remonter, et puis, donc, on va refaire un essai. Donc, il remonte l'armoire, repasse un bus, paf, ça explose. Alors, le vendeur dit, écoutez, là, je comprends pas. Bon, bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais me mettre dans l'armoire. Parce que comme ça, je verrai mieux de l'intérieur ce qui se passe. Donc, comme de fait, donc, il se met dans l'armoire. Et attend le prochain bus. Mais à ce moment-là, rentre le mari. Donc, qui voit que sa femme est, donc est bizarre. Il lui dit, pousse-toi de là, laisse-moi aller voir ce qu'il y a dans l'armoire. Il dit, non, il n'y a rien dans l'armoire. Si, je vais voir. Comme de fait, le mari ouvre l'armoire et trouve le vendeur. Et le mari dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et le vendeur lui répond, vous n'allez pas me croire, mais j'attends le bus.
Inscription, administration, école, apprendre, docilité, apprendre, lire, écrire, compter, dormir, s'informer, heure de colle, notes, chicotes, instituteur, prof, monsieur le maître, robinet qui fit, bulletin, bonnet d'âne, crayon, fourniture, cartable, classement, redoublement, admis, interro surprise, récréation, étudier, punition, cantine, cours de soutien, devoir, composition, examen, directeur, maternelle, primaire, secondaire, proviseur, professeur principal, économe, pion, recteur, éducateur, pédagogie, grève, cloche, sonnerie. Mais oui, l'école est finie. Salut aux couleurs, la meilleure place à côté du radiateur. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la scolarité et de l'accès à l'éducation. Dans son 7e principe, la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1969 indique que l'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chance, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. Pour répondre à nos questions sur l'accès à l'éducation et à la scolarité, nous recevons aujourd'hui Monsieur Vincent Breuil, professeur des écoles, responsable de l'antenne d'Évreux du réseau Éducation sans frontières.
Alors aujourd'hui, au sommaire, on a des textes, des lectures de textes à la marge tirés de l'atelier du Point des mots, une petite cuisine meilleure qu'à la cantine, c'est pas dur, un micro-trottoir bien éduqué, une minute du pôle studieuse, une interview magistrale, un narvalo armé de sa chicotte et des musiques sans flûte à bec. Et pour vous servir aujourd'hui, Caroline, Didier, Stéphane, Rémi, Sunday, Vaïtiaré, Timothée et Vivien.
Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, à la pépinière des Deux Plateaux. C'est un très beau établissement situé dans la capitale d'Abidjan, plus précisément aux Deux Plateaux, l'un des quartiers chics d'Abidjan. L'établissement était dirigé par des enseignants français, mais ce que j'appréciais, c'était le petit déjeuner de maman. Elle me préparait la bouillie de mil. J'aimais ça parce que je pouvais assaisonner autant que je veux. Je mettais le citron, ensuite le lait, accompagné de beignets. C'était un régal.
Alors là, on vient d'écouter Fitini et l'école ivoirienne.
Nous recevons aujourd'hui Monsieur Vincent Breuil, professeur des écoles et responsable de l'antenne d'Evreux du réseau Éducation sans frontières. Alors d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui est obligatoire pour mettre les choses au clair? Est-ce que c'est l'école, l'éducation?
Alors, l'école en France est obligatoire entre 6 et 16 ans. Hein, donc, l'école, c'est un moment de la vie. L'éducation, c'est tout au long de la vie. Je dirais que c'est du berceau au tombeau. On s'éduque pendant toute sa vie. Donc, il y a une différence assez importante entre l'école et l'éducation, même si forcément l'école contribue à l'éducation.
Bonjour, excusez-moi, Rémi.
Bonjour.
Quelle est la différence entre justement l'école ou l'éducation?
Alors,
vous avez peut-être
Moi, je suis un ancien maintenant, puisque j'entame ma 37e année devant élève, et au début du métier, j'étais instituteur. Alors maintenant, je suis devenu professeur des écoles. Et je crois que les mots ont leur importance. L'instituteur, c'est celui qui institue. Celui qui institue, c'est celui qui donne les règles communes, qui donne les valeurs communes. C'est celui qui fait institution. Ce qui fait institution, c'est ce qui nous rassemble, ce qu'on a en commun, ce qui fait société. Donc le rôle de l'école, c'est de nous permettre de faire société, d'apprendre à vivre en société. Maintenant, l'école ne peut pas suffire à cette institution, à cette sociétalisation des individus dans l'apprentissage à vivre ensemble. Je crois que c'est une nécessité tout au long de la vie et qu'elle ne peut pas s'appuyer exclusivement sur l'école, dont le rôle était autrefois, ça ne s'appelait pas éducation nationale, ça s'appelait instruction publique. Le rôle premier de l'école, c'est bien l'instruction.
D'accord. Donc en fait, l'école est nécessaire jusqu'à quel... En quoi est-elle nécessaire, mis à part...
Mis à part, effectivement, la capacité à vivre en société et à acquérir des règles de vie communes, l'école permet effectivement d'acquérir des savoirs et des savoir-faire et de trouver sa place ensuite dans la société. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Rémi, en citant la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Il y a aussi la formation de l'individu. Et là, il y aurait beaucoup à dire, effectivement, sur le rôle émancipateur de l'école. Est-ce qu'il donne aux élèves, est-ce qu'il donne aux enfants la capacité à se construire en individu capable d'exercer son libre arbitre, capable d'être des individus épanouis dans une société en progrès? Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de construire un système éducatif qui permet à chacun de se penser dans une société en progrès? Je crois que poser la question, c'est déjà un peu y répondre.
Alors, quels sont les prérequis pour accéder à l'école? Quels sont les freins les plus fréquemment rencontrés?
Alors, l'école est obligatoire pour tous les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Et depuis 2005 et la loi Monchamp, l'école devient accessible aussi à tous les enfants handicapés. Donc, a priori, il n'y a pas de prérequis. Les enfants qui sont on appelle ça dans l'éducation nationale des élèves à profil particulier, à besoins particuliers. Donc, on a toujours eu des élèves à besoins particuliers, mais là, on a des élèves avec des besoins particuliers très, très spécifiques que nous n'avions pas l'habitude de rencontrer dans l'école. Sur ce sujet-là, je crois qu'il y a des inclusions d'enfants handicapés dans l'école qui sont bénéfiques pour tout le monde, je dirais du gagnant-gagnant. Maintenant, toute inclusion dans le système scolaire n'est pas profitable. Il y a des exclusions qui se font à l'intérieur parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment beaucoup trop en difficulté dans l'école, qui n'est pas adapté au profil d'un certain nombre d'enfants. Donc, c'est toujours, il y a la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine, mais très clairement, il y a des enfants pour qui la scolarisation est un abandon de soins. Je le dis très clairement, des enfants qui ont besoin d'être soignés et qu'on ne soigne pas. Et l'école est pour eux un peu une voie de garage et des enfants peuvent se mettre en souffrance dans le système éducatif, mettre leurs camarades en souffrance, mettre l'enseignant en souffrance et mettre l'institution en souffrance. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de règles communes et générales. Il faut faire du coup par coup. Et ça, malheureusement, le système technocratique ne sait pas encore très bien faire.
Alors, on va y revenir après là, aux enfants handicapés. Parce que c'était aussi une promesse présidentielle de scolariser tous les enfants handicapés. Si je ne dis pas de bêtises, mais... Je ne sais pas s'ils ont réussi vraiment...
Alors le problème, c'est quelle scolarisation pour les enfants handicapés, pour quel projet? Il y a toujours, quand on nous annonce une réforme, on nous montre toujours la belle face de la réforme et toujours les beaux objectifs. Et il y a souvent des objectifs cachés qu'on n'énonce pas parce qu'au bout du compte, ils poursuivent des objectifs qui ne sont pas ceux qui ont été forcément annoncés dans les programmes politiques. La scolarisation de tous les enfants, de tous les enfants handicapés, elle nécessite l'accroissement du nombre d'adultes dans l'école. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des auxiliaires de vie scolaire, des AVS, qui sont dont on essaie maintenant de pérenniser un petit peu les fonctions. Les formations sont quand même un peu à minima. Ce sont des personnels qui sont très précaires, avec des dotations horaires qui sont insuffisantes pour vivre. Donc on a un vrai précariat qui est en train de s'installer dans l'éducation nationale avec ces personnels-là sur des contrats à durée déterminée. Hein. Donc quelquefois, vous avez quelqu'un qui commence à devenir compétent, bah, son contrat prend fin et on remet quelqu'un qui débarque. Et alors qu'on doit accompagner des enfants qui sont très fragiles et très en difficulté, on n'assure pas la permanence de l'adulte qui va leur permettre de se sécuriser dans l'institution. Donc là, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Nous, on réclame des AVS qui soient des personnels titularisés, fonctionnarisés, avec un vrai salaire, une vraie formation et un vrai statut, ce qui est loin d'être le cas en ce moment.
Et alors, en dehors des enfants en situation de handicap, est-ce qu'il y a d'autres freins ? Alors, je pense, par exemple, pour des migrants, est-ce qu'il faut avoir la nationalité ? Ou pour les gens du voyage, est-ce qu'il faut avoir
Spécifiquement, je suis professeur des écoles pour enfants migrants. Donc, effectivement, c'est un petit peu mon... C'est pour ça aussi que je suis membre du réseau Éducation sans frontières, hein, qui aide les mineurs isolés qui cherchent à être scolarisés et les familles d'enfants scolarisés. Donc, concernant les enfants migrants, il y a obligation de scolarité. L'obligation de scolarité, quelle que soit l'administration, la situation administrative, prime toutes les autres en France, entre 6 et 16 ans. Et bon an, mal an, on arrive à faire scolariser les enfants. Il y a sur Évreux des structures comme la mienne, hein, qui s'appellent des UPE2A, acronyme dans l'éducation nationale à le secret. Ça veut dire unité pédagogique pour élèves arrivant allophones, hein, donc des enfants qui viennent d'arriver et qui ne savent pas parler. Donc il y a 3 structures dans le primaire sur Évreux, plus 2 structures au collège Pablo Neruda, plus une au collège Paul Hetzer, plus une à Henri Dunant, plus des dispositifs au niveau du lycée. Donc là, pour les enfants d'âge scolaire, il y a une vraie compétence qui est là, et il y a des institutions qui existent. Maintenant, il y a une vraie difficulté qui est liée à l'absence d'hébergement. On a pas mal de gens qui sont à la rue, des enfants qui dorment dehors, et c'est difficile de les rattacher à une école, hein, dans la mesure où ils sont effectivement très mobiles et qu'ils vont chercher à se protéger, à trouver un toit, et qu'ils vont être un jour à un endroit, un autre jour à un autre endroit. Donc ça, c'est compliqué, hein. Et puis il y a aussi les hébergements que propose le 115 qui sont pas stables, donc difficulté à assurer une continuité de l'hébergement. Et puis il y a quand même un scandale qui est... Bon, on n'a pas trop le problème sur Évreux en ce moment, mais des enfants en centre de rétention administrative, c'est-à-dire des enfants dont les parents sont en voie d'expulsion et qu'on met dans des lieux de privation de liberté que sont les centres de rétention administrative. Donc il y en a eu, je crois, pas loin de 500 en 2016. Ce qui contrevient complètement aux engagements qui avaient été pris par l'ancien président de la République de ne plus avoir un seul enfant privé de liberté dans un lieu de privation de liberté. Donc là, il y a une vraie limite pour les enfants d'âge scolaire. Ça concerne un petit nombre, mais 500 enfants sur le territoire, je trouve ça énorme compte tenu des principes et des leçons que nous donnons au monde entier en matière de droits de l'homme.
Comment votre réseau est-il financé ? Comment votre réseau est-il...
Le réseau Éducation sans frontières n'est pas une association, c'est un collectif. Donc nous ne sommes pas personne morale, nous n'avons pas de trésorier, pas de hiérarchie. Donc il est composé de citoyens individuels et soutenu par des partis, par des syndicats, par des associations. Alors nous avons créé une association qui s'appelle Solidarité avec le collectif RSF27 qui nous permet d'avoir un local municipal à l'espace Saint-Léger, d'une part, d'organiser des manifestations, des expositions et d'avoir une surface juridique. Mais le collectif en lui n'a pas de surface juridique et de toute façon nous sommes dans des zones grises, hein, quand on défend des sans-papiers, et on voit aujourd'hui dans la vallée de la Roya combien c'est compliqué et combien la frontière entre la légalité et l'illégalité est ténue. Donc c'est aussi un peu une volonté. Donc nous n'avons évidemment aucun financement public. Nous ne vivons que sur nos propres deniers, ceux des militants et ceux que nous collectons auprès de donateurs. Alors nous avons un site, hein, RESF27, que vous pouvez retrouver facilement avec un formulaire de don en ligne, hein, puisque nous avons pas mal de dépenses pour obtenir des papiers, des passeports. Pour voir des hébergements d'urgence, pour tout un tas de nécessités premières, pour les personnes migrantes et qui sont en très grosse difficulté face à notre système administratif.
Alors, est-ce que Réseau Éducation sans frontières, est-ce que c'est un réseau français ou vous intervenez dans d'autres pays aussi ?
Alors, sur Évreux, le Réseau Éducation sans frontières est né en 2004 de la volonté d'expulsion du préfet de 2 jeunes Chinois à l'époque au lycée d'Évreux.
Oui.
Donc à l'époque, ça s'appelait le collectif WIM, hein, qui soutenait 2 jeunes Chinois qui s'appelaient Wang et Ming. Et aussitôt, le collectif a adhéré au réseau Éducation sans frontières qui venait de se créer en 2004 sous la présence au ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Donc, il y a eu une nécessité qui s'est fait jour à ce moment-là. Donc, le réseau, en fait, c'est une structure un petit peu polymorphe où il n'y a pas de hiérarchie non plus au niveau national. Donc, on a une liste d'échanges permanents avec des gens qui font souvent plus qu'un temps plein sur l'action auprès du réseau. Et donc voilà, donc il y a des antennes dans tous les départements où il y a beaucoup de migrants, hein. Alors dans les grandes villes, à proximité des grandes villes, nous on est un peu des satellites de Paris, donc il nous arrive énormément de gens parce qu'on est sur une ligne, il suffit de prendre le train et on descend en premier arrêt, on arrive à Évreux. Donc Évreux en tant que préfecture avec des services, avec un service étranger et étant sur une ligne de voie de chemin de fer, se retrouve effectivement en première ligne pour recevoir un certain nombre d'étrangers. Il n'y a pas de réseau de passeurs comme peuvent le penser certains qui amènent systématiquement les gens à Évreux, même si effectivement l'information circule. Par contre, sur la scolarisation, je ne sais pas s'il est prévu d'en parler après, il y a l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans et après il y a le droit à l'éducation. Et pour les enfants qui sont là, qui arrivent avant 16 ans, il y a une réalité de la prise en charge. Mais pour ceux qui arrivent entre 16 et 18 ans, ou voire après, on arrive, tant bien que mal, à faire entrer dans des cursus de formation et d'apprentissage des enfants qui ont déjà eu une scolarisation, hein, avec la Chambre des métiers, avec le Centre de formation des apprentis, avec l'Éducation nationale. Donc on arrive à faire entrer un certain nombre de jeunes qui dans des systèmes de formation qui vont leur permettre de s'intégrer et de devenir surtout financièrement autonome le plus vite possible, ce qui est une nécessité vitale pour eux. Mais on rencontre de grosses difficultés avec des enfants dont on dénie la minorité. À savoir que les enfants qui arrivent dépendent directement de l'aide sociale à l'enfance, donc du conseil départemental de l'Eure. Et que c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est qu'il en arrive beaucoup, hein, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont affronté les prisons libyennes, qui ont vécu des choses indicibles. Et qui, lorsqu'ils arrivent ici, qui croient être mis sous la protection, c'était de la protection de l'enfance, là, autrefois, se retrouvent déniés dans leur minorité, se retrouvent à la rue, et se retrouvent sans les droits des mineurs, ni les droits des majeurs. Ça veut dire qu'ils n'ont droit ni au 115, donc à l'hébergement, ni droit au Resto du Cœur, puisque c'est réservé aux majeurs, et que leurs papiers montrent qu'ils sont mineurs. Mais on leur dit qu'ils sont mineurs, donc ils n'ont pas accès non plus à la formation. Donc là, il y a un vrai combat que nous menons, c'est un des gros combats du réseau Éducation sans frontières. Donc on a toujours gagné en justice et fait reconnaître la minorité des enfants, mais souvent ils ont perdu un an et demi, durant lesquels ils ont été en grande souffrance. Ce sont des militants qui les ont accompagnés, qui les ont hébergés gratuitement, qui les ont logés. On a essayé de mettre en place des formations, mais sans représentant légal, c'est très très compliqué. Et là, hier soir, on avait encore 4 mineurs à la rue qui se sont pointés. Les mercredis après-midi, il y a un atelier sociolinguistique pour les mineurs isolés. Ils étaient 23 hier au local. Donc 4 nouveaux, 3 qui étaient en attente d'être pris en charge par l'ASE. Mais comme il n'y avait pas de place, on les laissait dehors. Ce sont des enfants. Hein. Devant la loi, ce sont des enfants. Et un autre dont on avait décidé qu'il était pas mineur, que ses papiers étaient faux et donc qu'il se retrouvait privé de droits. Donc ça a été un peu le sprint hier pour trouver des militants et des solutions administratives pour que ces 4 gamins ne dorment pas dehors, alors que certains y dormaient déjà depuis 10 jours et qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'à nous à ce moment-là. Donc il y a un vrai problème avec le droit à l'éducation, puisque non scolaris, entre 16 et 18 ans, s'ils n'ont pas de passé scolaire, eh ben, il n'y a pas de structure. Donc il y a l'association du Clos-au-Duc qui fait un boulot formidable avec les jeunes qui sont non francophones, non alphabétisés, donc pour apprendre à lire. Mais il y a un vide au niveau de l'éducation nationale en dépit de ce qui existe dans les textes et des circulaires qui disent que des dispositifs doivent être créés mais qui ne sont pas créés. Donc il y a un vrai problème pour les 16-18 donc qui n'ont pas eu un passé scolaire suffisant pour intégrer un cursus. Et puis il y a un vrai problème avec ceux qui deviennent majeurs. On a vu des majeurs inscrits dans un cursus scolaire de réussite dès leur majorité, recevoir une obligation à quitter le territoire français. Donc, il a fallu contester au tribunal administratif, et puis il a fallu accompagner ces enfants qui perdaient le droit à tout ce qu'ils avaient, hein, à un hébergement, à une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, puisque l'aide sociale à l'enfance, quand il y a un processus qui est engagé, peut signer un contrat jeune majeur qui permet l'accompagnement du jeune jusqu'à la fin de son cursus scolaire, jusqu'à ce qu'il devienne autonome et indépendant. Et on s'aperçoit bien souvent que le contrat jeune majeur, eh ben, c'est pas rentré dans les. C'était dans le programme politique de certains un peu de ce côté-là, là, du côté de la main où j'écris
et du côté de la, très loin du côté de la main où j'écris, et moi je suis droitier, donc qui dit préférence nationale, et bien on s'aperçoit que les contrats jeunes majeurs, et ben ils sont réservés à ceux qui ont la nationalité française, et que ceux qui autrefois, alors qu'on pouvait y prétendre autrefois en étant étranger, aujourd'hui c'est dans les faits, ça n'existe plus. Donc une vraie discrimination là, en l'occurrence.
Alors, on va maintenant écouter un extrait d'un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Évreux.
Pensez-vous de l'accès à l'éducation dans le monde et en France, l'accès à l'éducation ?
Bah écoutez, il y a de grandes inégalités dans ce domaine. Il y a un grand nombre de pays dans le monde qui n'ont pas un bon accès à l'éducation. Bon, manque de moyens, manque de priorités accordées à ce domaine, éloignement des écoles, pas assez d'enseignants formés aussi. Donc, dans les pays du tiers-monde, il y a beaucoup de lacunes dans le domaine, bien sûr.
Malheureusement, c'est encore donné qu'aux pays développés, il n'y a pas assez d'accès à l'éducation dans tous les pays pauvres, tous les pays du tiers-monde. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, tout simplement, et c'est juste pas possible, quoi.
Alors là, je vois pas, là.
Dans le monde, je pourrais pas vous dire, là, parce que je pourrais pas vous répondre dans le monde.
Et en France, l'accès à l'éducation ?
Bah, pas bon pour moi, pas suffisamment... pas suffisamment à la portée de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui sont...
Qu'est-ce que vous entendez par éducation ?
L'éducation, accès à la scolarité ou...
Ah, parce qu'il y a une différence entre éducation et instruction.
Tout à fait. Scolarité.
Voilà, parce que l'instruction, c'est ouvrir aux autres, éducation, c'est diriger. Déjà. Okay. Parce qu'éducation nationale, ça vient de Pétain. Hein.
Ah, ah.
Bah, au moins, avant, c'était instruction publique, avant.
Oui.
Voilà.
On en apprend, vous.
Bah, voyez.
Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce que j'en pense ? C'est qu'on est en train de tout détruire. Tout simplement.
Bah, c'est-à-dire que tout ça, c'est encore une question de gros sous. Hein. Ceux qui ont des moyens, bah, ils vont dans les écoles privées. Et puis, bah, ceux qui ont des petits moyens, bah, ils vont dans les écoles où les enfants n'ont pas la possibilité d'avoir les... Comment je pourrais dire ça ? Ils n'ont pas les mêmes moyens que dans les autres écoles, quoi. Voilà.
Bah, en France, ça me semble correct. Mais dans le monde, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir, hein, dans certains pays.
Alors, je vais vous demander si vous avez des réactions sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est vrai qu'en France, en termes de scolarité, on fait partie quand même des pays les plus développés. Et donc, effectivement, avec une scolarité obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans, avec des enseignants qui sont payés par l'État, avec des locaux qui sont l'apanage des collectivités locales, donc... les écoles primaires et maternelles pour les communes, les collèges pour les départements et les lycées pour les régions. Donc effectivement, il y a toute en France, on est quand même en matière d'organisation de l'école. Bon, on a appelé ça le mammouth. C'est vrai que le fait que tout soit centralisé en France produit une administration assez quelquefois un peu lourde et pléthorique, mais c'est aussi la garantie d'équité sur le territoire. Enfin, ça devrait. En tout cas, on le souhaite tous. Effectivement, on sait que l'éducation est primordiale pour le progrès humain. Hein. C'est aussi le moyen de s'élever au-dessus de sa condition, de faire progresser le monde. Il n'y a pas d'autre moyen que l'éducation pour faire progresser le monde. Il faut faire progresser les individus en conscience de leur place dans la collectivité pour faire progresser le monde. Donc, est-ce que le monde est en progrès aujourd'hui ? Est-ce que notre système éducatif permet à notre société de progresser ? Moi, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Et du monde et de la vie et de ce métier-là et je me pose des questions. Est-ce qu'on est en train de permettre aux enfants que nous avons aujourd'hui de devenir demain des citoyens capables d'exercer leur libre arbitre dans un monde en progrès? On a du mal à voir le progrès humain aujourd'hui. On est dans une espèce de course folle vers un économitarisme à tout craint. On est dans une société on parle de libre-échange, mais est-ce que le libre-échange est équitable? Encore une fois, poser la question, c'est y répondre. Effectivement, dans un monde inéquitable, est-ce que des gens éduqués pourraient accepter de vivre les inéquités dans un monde inéquitable? La réponse est évidemment non. Donc aujourd'hui, l'éducation vise plus à faire acquérir des compétences, et c'est un des maîtres mots de l'éducation nationale depuis quelques années, hein, faire acquérir des compétences, quitte à avoir des imbéciles compétents, qui soient capables effectivement de répondre à certains besoins du système, hein, mais surtout qui s'abstiennent de l'exercice du libre arbitre et de pouvoir faire évoluer un système qui profite sûrement à certains. Mais bon, moi je sais qu'aujourd'hui il y a un Français sur six qui vit en deçà du seuil de pauvreté, et je trouve ça complètement intolérable, alors que le pays est en croissance constante depuis 1945 et que nous sommes aujourd'hui moins riches qu'hier, et c'est le contraire, moins riches que demain et plus riches qu'hier. Donc il y a un vrai problème de répartition de la richesse, et aujourd'hui on est en train de préparer des enfants pour la guerre économique qui a eu lieu au XXe siècle, alors que les enjeux de demain, ce sont le réchauffement climatique, la pollution, la perte de la biodiversité, la capacité de l'humanité à perdurer sur la planète. Et est-ce qu'on est en train de préparer les enfants à ça? Non, il n'y a pas d'éducation là-dedans. On n'est plus dans de l'éducation. Je crains fort qu'on soit dans quelque chose qui s'apparente plus à du conditionnement. Bien sûr, ces propos n'engagent que moi.
Donc, pour intervenir après, une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, du système éducatif, du RS, le RESF. Après 16 ans, quelles seraient les obligations de l'État envers les étudiants et envers les décrocheurs après 16 ans?
Alors, après 16 ans, pour les mineurs isolés que nous avons, ou les mineurs non accompagnés, il y a effectivement passé l'âge de l'obligation de scolarité, même si dans les circulaires il est écrit que le droit à l'éducation reste, il n'y a pas les structures. On n'a pas créé les structures, donc il y a un vide. Il y a un vide, donc il y a des associations qui essayent d'y pallier. Mais sans un bagage minimal, c'est difficile d'accéder à un apprentissage. Alors qu'on a des gamins qui peuvent manuellement être capables de faire énormément de choses. Toute la partie du enseignement général, à partir du moment où on n'a pas accès à la lecture, pas accès au calcul, et où on n'a trouvé personne pour permettre d'y accéder, ça devient très très compliqué. Donc pour nous, l'éducation, c'est vraiment un enjeu très très important. C'est pour ça qu'avec l'arrivée de tous ces mineurs isolés depuis 2014, nous avons senti la nécessité de créer un atelier tous les mercredis, qui est bien insuffisant, mais qui permet à chacun de... excusez-moi. D'essayer de trouver un petit peu de repères pour s'intégrer à cette société-là. Alors, pas seulement en termes de scolaire, mais aussi en termes de comportement, en termes de comment eux, avec leur culture, ils doivent s'adapter pour pouvoir trouver leur place dans la société telle qu'elle est aujourd'hui ici en France. Donc là, il y a une vraie carence, effectivement, pour ces jeunes en grosse difficulté scolaire et pour lesquels on met dans l'éducation nationale des dispositifs très coûteux, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a tant d'élèves décrocheurs, à quel moment ça pêche. On est encore en train de traiter d'un symptôme, alors que si on ne prend pas le mal à la racine, eh bien, on a peu de chances d'y arriver. On a quand même sacrifié l'éducation populaire depuis 30 ans dans ce pays. Il y avait un tissu d'éducation populaire avec des associations, des centres de vacances, des centres de loisirs, qui aujourd'hui n'existent plus et qui est sûrement à réinventer.
Alors, on est malheureusement pris par le temps. Donc, je vous rappelle qu'on recevait M. Vincent Breuil, professeur des écoles et responsable de l'antenne d'Evreux du réseau Éducation sans frontières. Alors, pour terminer, je vais vous demander si vous pouvez nous redonner les coordonnées du réseau. Vous nous avez dit, entre autres, si on veut faire des dons ou vous aider.
Alors, il y a un numéro de téléphone, mais là, je l'ai pas en tête. Je dois avoir un flyer dans mon petit cartable qui est resté là-bas au fond de la salle. Mais nous avons un site assez bien documenté qui décrit un petit peu toutes nos actions. Et puis, vous pouvez aller signer les pétitions sur le site. Bon, elles sont aussi en ligne, hein. Nous avons des pétitions pour défendre des personnes qui sont actuellement accompagnées par le réseau et qui sont mises en difficulté administrativement alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc RESF 27, hein, vous tapez ça sur tout bon moteur de recherche, sur Lilo, pourquoi pas, il est pas mal. Hein, et puis là, vous aurez un petit peu qui nous sommes, nos actions et comment nous aider ou comment nous rejoindre, parce qu'on a besoin, aussi de monde pour traiter des dossiers, pour accompagner les familles et les jeunes.
Je me permets juste, on est obligé de couper parce que première raison, on est pris par le temps, on a d'autres éléments dans cette émission à glisser. Deuxièmement, vous nous l'aviez glissé hors antenne et je me permets de le rementionner, mais on l'entend sur la fin de la discussion, vous avez aussi la gorge et la voix qui commence à faiblir, donc on va pas abuser. Je pense qu'on aurait pu développer un certain nombre d'éléments encore dans cette émission. Comme on le disait, on est forcément pris par le temps. Ça donnera lieu à un prochain rendez-vous, Vincent. On s'arrêtera pas là.
Avec plaisir.
On vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur l'accès à l'éducation.
Je veux aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je veux aller à l'école, fabriquer des souvenirs. Je veux aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je veux aller à l'école, préparer mon avenir. Si j'étais allé à l'école, je ne serais pas allé au champ. J'aurais laissé la machette pour écrire sur mes tablettes. Si j'étais allé à l'école, j'aurais pu lire ce document. J'aurais pu aider mes parents. Tout se serait passé autrement. Je veux aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je veux aller à l'école, fabriquer des souvenirs. Je veux aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je veux aller à l'école, préparer mon avenir. Quand j'irai à l'école, je pourrai écrire au président. Ah oui, j'ai lu votre programme. Il faut l'appliquer maintenant. Quand je quitterai l'école, devant moi mon avenir. Je suis heureux de vous dire, je peux décider maintenant. Je vais aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je vais aller à l'école, fabriquer des souvenirs. Je vais aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je vais aller à l'école, préparer mon avenir. Savoir lire, pouvoir écrire. Fabriquer des souvenirs, savoir lire, pouvoir écrire, préparer mon avenir.
D'écouter l'école de Tikanja Fakoli. Je me souviens quand j'étais à l'école de ce professeur de mathématiques, un vrai vicelard, avec son air droit comme un i, ses petites lunettes rondes et sa moustache ringarde, et sa BMW trop propre pour être honnête. Pour résumer simplement le personnage, c'était un vrai connard. Je le détestais, et bien sûr, lui il m'adorait. J'étais bon élève, j'avais des facilités en maths et une bonne visualisation dans l'espace, c'est lui qui le disait. Du coup, il m'appelait mon géomètre, quand il appelait les autres bande d'ânes. Inutile de préciser, c'est une figure de style puisque là, je vais tout de suite préciser, que ça m'a valu moult humiliations de la part de mes chers camarades de classe, dont certains n'avaient pas inventé ni l'eau chaude ni l'eau tiède. Ce professeur de mathématiques, abject, répugnant, vomitif, là vous pouvez mettre tous les adjectifs synonymes qui vous viennent, a expliqué à mes parents le grand avenir qui m'attendait, eu égard à mes bonnes dispositions en géométrie. Même si géomètre, ça m'a jamais apparu comme un avenir très folichon. Par contre, c'était tout le contraire pour ma sœur. Elle était nulle en maths. Donc, il avait dit à mes parents, je me suis perdu dans mes lignes. Voilà, il avait dit à mes parents qu'elle pouvait pas viser plus que technicienne de surface. Alors c'est un anachronisme. À l'époque, il n'y avait pas encore cette expression politiquement correcte. À l'époque, péripatéticien, c'était des philosophes de l'Antiquité, et gay, ça voulait dire joyeux. Mais peu importe. Bref, cette honte de la profession de professeur était aussi perspicace que visionnaire. Mais heureusement, on se rassure comme on peut, on a rarement l'occasion, au cours d'une vie, de rencontrer quelqu'un d'aussi con.
Bien, aujourd'hui, nous allons vous faire une recette super sympa
donc qui se nomme la bouillie de mille. Alors, pour faire donc cette bouillie de mille, donc il nous faut, on parle pour deux personnes, il nous faut 150 grammes donc de mille, 700 millilitres d'eau, un citron, un sucre et du lait concentré sucré. Un sachet de sucre vanillé. Alors Caroline est en train de remuer donc l'eau afin de mettre donc le mille. On met donc la bouillie, les graines de mille donc à partir du moment où l'eau commence à bouillir. Fais ça avec beaucoup de confiance.
La Coupa me disait tout à l'heure qu'il y avait un nom en urbain, comme on disait la bouillie de mille.
Dans sa langue.
Ouais. C'était Monibara ou quelque chose comme ça.
Je sais.
Monibara.
Vas-y.
Le Nyombara.
C'est ça le nom de la recette ?
Oui.
Alors là, surtout, c'est d'essayer de faire donc une bouillie homogène, sans cremeau. Caroline a l'air de maîtriser ça, donc il n'y a pas de problème. Alors cette bouillie de mille, plaire à qui ? Plaire à qui ? Elle va plaire aux enfants ?
Je crois que l'idée de départ, c'était la recette que faisaient les mamans avant d'aller à l'école. Donc une bouillie qui tient bien au corps pour tenir toute la journée.
D'accord, mais bon, c'est pas parce qu'il y a que les gens, pas parce que les enfants en mangent que les adultes doivent pas en manger.
Exactement.
Bon. Pas regarder la forme toute la journée. Enfin, jusqu'au midi, du moins. Il faut laisser, donc, une fois qu'on a mélangé, il faut laisser mijoter durant 10 minutes. Vous allez voir, c'est hyper simple à préparer. Et pareil, c'est un délice. 10 minutes. 10 minutes et après 5 minutes.
Donc un quart d'heure.
Un quart d'heure. Une fois qu'on a fait les 10 minutes, il faut laisser mijoter. Et c'est après qu'on reprend donc, le mélange. Pendant 5 minutes. Pour que les graines donc soient bien cuites.
Il a dit on remue de temps en temps.
D'accord.
Il ne veut pas le dire fort parce qu'il ne veut pas qu'on l'entende à la radio.
Pour éviter que ça colle.
D'accord. Donc on remue de temps en temps pour éviter que ça colle.
Et pour que ça ne fasse pas des grumeaux.
Ouais, que ça ne fasse pas des grumeaux, oui.
Quand vous faites la bouillie de mille, dans l'eau bouillante, vous allez remarquer que ça mousse énormément. À la cuisson, quand elle est presque cuite, la mousse est disparue. Donc, vous pouvez savoir que la bouillie est cuite.
Maintenant, un petit texte de Rémi. Je me souviens des journées lycées passées dans les troquets avec café et guitare, etc. Puis de même, des journées lycées sur les mobilettes, dans les rues lycées, près des troquets lycées, où les flippers lycées tiltaient comme les cloches lycées. Des groupes formés dans les bars lycées, par accointance typiquement bar lycée, et ça parlait de tout, mais pas du lycée. Je me souviens, mais c'était le lycée, donc je me permets d'oublier.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Kenavo les blaireaux, salut les peintus. J'arrive pour une nouvelle saison. Back au milk pour ma série éponyme. Le Narvalo, synonyme de grandeur et d'espérance en un monde meilleur et plus juste envers moi-même. Le Narvalo, la force pépère. Après notre émission spéciale casting, j'ai enfin fait mon choix. Le spécial narrateur ne sera ni Coluche, ni les frères Bogdanov, ni Léon Zitrone. Son nom, Doulmur, meilleur animateur de la planète d'origine de Moulmou, et Doudur, la planète Proxima du Caramiel.
Médiocre terrien, et aussi forme de vie évoluée ou évoluante à l'écoute des aventures du modeste Narvalo. Comme on dit chez nous sur Proxima du Caramiel, qui veut voyager loin outrage sa monture. Ainsi, le Narvalo et ses sous-fifres sont toujours au Fort Boyard, afin de participer à la meilleure émission du PAF, seule raison pour laquelle nous n'avons pas encore annihilé l'espèce humaine.
Je suis contraint de suspendre le suspense pour un flash info très spécial, vital et important. Écoutez vos oreilles. Nous diffusons un message reçu de Corée du centre-gauche, enregistré par le dictateur révérend guide suprême de volaille, sévère mais juste, mais surtout sévère, Kim Jong-dos.
Anian Gaseyo, les blaireaux. La CIA a coupé mon abonnement à Netflix, alors que je n'ai même pas encore vu la dernière saison de Narcos. En représailles, j'ai décidé de bombarder atomiquement le Pentagone. Bon, notre bombe est très fiable, contrairement à son GPS. Notre bombinette se dirige donc actuellement droit sur la tête de tigre du Fort Boyard. Jacques Bayol Insa, et sans rancune. Et j'ai pas de rime en une, les blaireaux.
Yodine, sauve-nous grâce à tes pouvoirs magiques de téléportation.
Je veux bien, mais je suis limité en place. Je prends toute l'équipe, sauf Poupette et Louise, Émile.
Pourquoi pas nous ?
Louise, Émile, parce que c'est ta faute. Si nous en sommes là, avec ton GPS débile. Et Poupette, parce que tu es mal coiffée.
J'arrive mou, aussi vite mou que possible mou.
Téléportation doux, allons œuf dur.
Allons ma fille, toujours là au bon moment. Allez ma bataille, viens donc on s'en aille. Les juges et les lois, ça me fait pas peur.
Mais non, non, elle est bien ma coiffure, elle est magnifique.
Quelle belle explosion! Cela nous rappelle la première planète détruite. Plus beau jeu de lumière qu'à Disneyland. Et comme on dit sur Proxima du Caramiel, qui dit belle lumière dit belle explosion, paillettes et confettis. Notre fine équipe s'envole pour de nouveaux horizons inconnus.
Prise au dépourvu, capsule Alaska du Nord.
Yippee! J'aurais préféré le Texas, mais va pour l'Alaska.
En plus mou, il fait froid mou, j'ai pas mou, pris mou, ma doudoune mou.
Bah l'Alaska Dew, c'est tout pourri dur.
Toute l'équipe atterrit en Alaska du Nord. Est-ce que l'Alaska du Nord est mieux que Fort Boyard après une explosion atomique? Comme on dit sur Proxima du Caramiel, qui vole un œuf fait une omelette d'autruche. Toute l'équipe se plaint, seul le Narvalo se réjouit de cette destination. Qu'a-t-il derrière la tête et plus précisément à l'intérieur de la tête? Point d'interrogation. Mais où se trouve la frontière entre l'Alaska du Nord et l'Alaska du Sud? Cette position géographique non loin de la Corée du centre-gauche permet-elle une riposte conséquente? Au fond, l'Alaska n'est-il pas qu'un mythe? D'ailleurs, ne faut-il pas rendre les mythomanes? Faut-il faire payer aux Québécois la construction d'un mur à la frontière alaskienne? Pour le savoir, bonne chance. Où rendez-vous le 26 octobre de la même année, à la même date que précédemment susénoncée, est bien conséquente. Thank you.
Les aventures du narwhalo, c'est dans Ozone Libre.
Que pensez-vous du système scolaire tel qu'il est ?
Vaste question. Bon, il est assez performant au niveau du primaire. Par contre, au niveau du secondaire, je crois qu'il y a des problèmes. Bon, d'une part, il y a des problèmes d'adaptation de l'éducation nationale au monde moderne et notamment aux technologies de l'informatique.
Français ?
Oui.
Rien à dire, je me prononce pas. Enfin, après, j'ai rien à dire parce que j'aurais trop de choses à dire.
Ouais, si vous aviez des exemples.
C'est juste pas possible. La réforme des rythmes scolaires à Évreux, c'est juste n'importe quoi. Mais bon, je pense qu'il y a des meilleurs exemples ailleurs, dans les autres villes. Et puis, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment regarder vers nos amis suédois, norvégiens, qui, ont tout compris, en fait.
Voilà. Il y a de haut, de bas.
Qu'il y a trop de vacances.
Pourquoi ?
Elles sont trop en vacances, les enfants. Quand c'est pas les enfants qui sont en vacances, c'est les profs qui sont absents. Ah.
Voilà, il y a beaucoup à refaire. Alors là, je veux même pas.
Je dirais quoi à refaire, par exemple ?
Oh, beaucoup de choses. Même là, tout à l'heure, on voyait les enfants sortent à 16h. Enfin, vraiment, c'est plus du tout adapté comme... on va pas toujours dire de notre temps, mais... non, c'est franchement... ça va pas.
C'est nul. Complètement nul.
Pourquoi ?
Parce que les enfants, ils apprennent plus... avant, les enfants, quand ils sortaient de la maternelle, ils savaient lire, compter, écrire. Maintenant, ils savent dessiner. Voilà, les profs sont tout le temps absents. On les remplace pas. Donc je trouve que c'est nul par rapport à d'autres pays. Je vois en Allemagne, ils travaillent tout le matin. Oh, excusez-moi.
C'est pas grave.
Tout le matin et les après-midi, c'est ils font du sport, ils font des activités artistiques. Ça, c'est bien comme éducation.
Moi, je suis pour la méthode syllabique. Donc contre la méthode globale. Je suis contre le fait qu'on interdise le redoublement. Parce que le redoublement, c'est pas punir l'enfant, c'est donner une chance. Voilà.
Bah, globalement, ça m'a l'air pas mal. Mais je suis pas trop au fait, mes enfants sont grands donc.
Quel est votre meilleur et votre pire souvenir d'école ?
Alors, bon, mes pires souvenirs, c'était ma nullité en mathématiques. Bon, par contre, je m'étais fait beaucoup de copains et de copines.
Ça, c'est le meilleur ?
Oui, ça compte parmi les meilleurs. Et puis. Bon, j'étais un grand passionné d'histoire, de géographie, et là, je suis tombé sur des professeurs formidables, en français aussi.
À Bordeaux, j'étais à l'école à Bordeaux, j'ai reçu mon diplôme en métal, voilà, j'ai un CAP de tabac pro, c'est tout, j'ai un boulot.
Mon pire souvenir, c'est que je suivais les professeurs partout, que j'allais boire le café avec eux.
Pour souvenir, c'est mon professeur.
J'apprenais bien à l'école.
J'allais travailler, si vous voulez. Et puis bon, on n'allait pas à l'école. Ben, voilà.
Le meilleur souvenir, c'est quand en primaire, en CE2, mon professeur m'a conseillé un roman qui s'appelle La nuit des temps de Barjavel. Moi, c'est ma première rencontre avec un roman et ça m'a juste bouleversée, en fait. Et c'est pour ça que je crois que j'aime la littérature depuis. Le pire, il y en a plein.
Meilleur, c'est des amis que je pouvais avoir, on va dire, en primaire.
Et votre pire ?
Pire quand je suis arrivée à Évreux parce que l'école qui devait me prendre ne m'a pas prise.
Le meilleur, c'est les fins d'année où quand on comptait les bons points pour avoir des petites images après des grandes images. Non, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous avez connu ça aussi.
J'ai connu aussi.
Et on allait sur les péniches, on allait faire une excursion dans Paris. Alors ça, c'était. On était fiers parce que bon, on demandait à papa ou à maman de venir avec nous. C'était vraiment le summum de la récompense. Voilà, ça, c'est un bon souvenir. Maintenant, ça n'existe plus tout ça.
Voilà. Il n'y a pas de pire souvenir du coup ?
Non, parce non. que j'ai toujours adoré aller à l'école. Donc pour moi, l'école. Moi, ma punition, c'était les vacances.
Voilà. Donc c'est le pire souvenir, c'est les vacances.
Voilà, on peut dire ça.
J'étais un cancre. Non, j'ai pas de meilleur et de pire. Hein. Non, pas spécialement, non.
Mais vous êtes là pour reprendre l'école alors.
Voilà, tout à fait.
C'est lui aussi ça. Le meilleur souvenir, c'est j'irai d'apprendre. D'apprendre. Et puis mauvais souvenir, quand j'ai des mauvaises notes. Voilà.
Et c'est le moment tant attendu de la minute du pôle. On a trouvé ce mois-ci une lettre de Fiodor Dostoïevski à une jeune maman qui lui avait écrit pour lui poser des questions sur l'éducation. C'est une lettre du 27 mars 1878, donc vous verrez, c'est vraiment dans le contexte du 19e siècle pour les questions éducatives et développement de l'enfant, avec, comme toujours chez Dostoïevski, la présence de Dieu aussi très importante, puisqu'il dit quand même à la dame qu'au niveau éducatif, vous ne trouverez pas mieux que le Christ, croyez-le. On a pris quelques extraits pour pas que ce soit trop long. Je déduis de votre lettre que vous êtes une bonne mère, très inquiète pour son enfant qui grandit. Mais à quoi vous servirait la solution des problèmes que vous m'exposez? Je ne puis le comprendre. Vous vous interrogez par trop et votre inquiétude est maladive. L'affaire peut être menée beaucoup plus simplement. À quoi riment de telles questions? Qu'est-ce qui est ou non un bien? Ces questions n'en sont que pour vous, comme pour tout être intérieur. Mais à quoi riment-elles pour l'éducation de votre enfant? Tout homme susceptible d'atteindre à la vérité ne sent-il par sa conscience ce qui est ou non un bien? Soyez bonne, que votre enfant comprenne que vous l'êtes, lui-même, sans qu'il soit besoin de le lui souffler. Qu'il se souvienne que vous étiez bonne et croyez-moi, vous remplirez vos obligations à son égard pour toute sa vie, parce que vous lui aurez directement appris qu'il est bien d'être bon. Il évoquera en outre votre image, sa vie durant, avec un grand respect, peut-être même avec tendresse. Et si vous avez également fait beaucoup de mal, à tout le moins agi avec légèreté, de façon morbide, voire risible, il ne manquera pas de vous pardonner tôt ou tard toutes ces mauvaises choses dans le souvenir qu'il aura de vous, pour tout le bien dont il aura la mémoire. Sachez aussi que vous ne pouvez rien faire de plus pour lui, et c'est amplement suffisant. Le souvenir du bien chez les parents, autrement dit de la bonté, de la vérité, de l'honnêteté, de la compassion, de l'absence de fausse honte, et dans la mesure du possible de mensonge, tout cela fera tôt ou tard de lui un autre homme, soyez-en assurés. Ne croyez pas en tout cas que ce soit là peu de chose, il suffit de greffer un minuscule rameau à un arbre gigantesque et les fruits s'en voient transformés.
Imaginez que votre enfant, ayant atteint l'âge de 15 ou 16 ans, vienne vous trouver, mal influencé par des camarades d'école par exemple, et vous pose, à vous ou à son père, cette question. Pourquoi devrais-je vous aimer et m'en faire un devoir? Croyez qu'alors, aucun savoir, aucune question ne pourront vous être de quelque secours. D'ailleurs, vous n'aurez absolument rien à lui dire en réponse. Aussi, devez-vous faire en sorte qu'il ne vienne pas vous trouver, pas avec une pareille question. Et cela ne sera possible que s'il vous aime sans détour, directement, de sorte qu'aucune question de ce genre ne soit en mesure de lui passer par la tête. À ceci près qu'à l'école, il risque de faire le plein de convictions paradoxales. Dans ce cas, toutefois, il sera par trop simple de démêler le paradoxe de la vérité, et à cette question, il suffit de sourire et de continuer à lui faire du bien. Aux questions que vous me posez, je ne sais décidément que dire, car je ne les comprends pas. Bien sûr, si un enfant est mauvais, la faute en revient simultanément à ses mauvais penchants naturels, car l'homme en est sans conteste doté dès la naissance, et à ses éducateurs qui n'ont pas été en mesure ou n'ont pas eu le courage de maîtriser ses mauvais penchants afin de les diriger vers le bien, par exemple. En second lieu, l'enfant, tout comme l'adulte, est soumis à l'influence du milieu ambiant ainsi que d'individus isolés qui vont parfois jusqu'à le dominer entièrement. Il n'y a là aucune question, cela dépend des circonstances. Or, il vous faut vaincre les circonstances car vous êtes mère et tel est votre devoir, non par le tournement mais par la sensibilité, non par un amour qui finit par lasser mais par un bon exemple extérieur. Quant à la question du labeur, je ne veux pas même en parler. Emplissez votre enfant de bons sentiments et il aimera la labeur. Mais il suffit, j'en ai beaucoup écrit, je suis fatiguée et j'ai bien peu dit, de sorte que naturellement, vous ne comprendrez pas.
Les enfants, la récré donc est terminée, il est à présent temps de rentrer donc en classe et de rendre l'antenne. Nous remercions encore Vincent Breuil du réseau Éducation sans frontières d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur l'accès à la scolarité et à l'éducation. Nous remercions également l'équipe de Zone Libre une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de principes actifs, JC le terrible inspecteur, le professeur Damien, Timothée, notre auxiliaire de vie scolaire préféré. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission le jeudi 26 octobre. En attendant, retrouvez nos podcasts sur la page de Zone Libre du site principatif.net. Rappelez-vous, manger de la bouillie de mil vous protégera du mauvais sort.